comme les difficultés, les besoins de ce frère avec son handicap prennent toute la place, on grandit en faisant passer ça avant les siens. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de réapprendre, voire d'apprendre tout simplement, à identifier, moi, ce que je veux.
Tous pareils ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Prendre soin de son frère sans s'oublier. Comment faire pour se construire lorsque l'on grandit aux côtés d'un grand frère en grande difficulté ? Comment trouver l'équilibre entre le désir de lui venir en aide et le souhait de vivre ses propres expériences ? Comment trouver des réponses lorsque aucun diagnostic ne vient expliquer le comportement de ce frère ? Ce chemin, c'est celui de Mathieu, 30 ans, frère d'un adulte autiste qui n'a reçu son diagnostic qu'à l'âge adulte. Il revient sur son parcours d'enfant et d'adulte aux côtés de ce frère atypique. Voici un peu de son histoire.
Donc je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans, je viens de Normandie, ça fait 8 ans que je suis à Paris, donc je suis le frère d'un adulte du coup qui a un TSA, plutôt léger, plutôt profil Asperger, et qui est du coup plus âgé que moi, qui a 3 ans de plus que moi. Il s'appelle Maxime, donc il a été diagnostiqué jeune avec un trouble 10, en l'occurrence dyspraxie. Donc c'est un peu le diagnostic qui a emporté, qui a pris le pas sur tout le reste quand il était jeune, ce qui fait qu'il a été diagnostiqué avec son TSA très tardivement à l'âge adulte, donc il y a aux alentours peut-être de 27-28 ans. Donc moi j'ai grandi avec un frère autiste, mais sans que le diagnostic soit posé dessus. Il y avait effectivement une certaine tension qui se manifestait beaucoup le soir à table, et ce temps-là était largement consacré aux difficultés de mon frère à l'école, et ça prenait effectivement l'essentiel de la place. On s'adapte dans ces situations-là, moi je pense que j'utilisais beaucoup l'humour pour essayer de désamorcer ce qui était quand même des situations assez lourdes en fait. Ce dont je me rappelle, alors c'était surtout de la violence physique, dans le fait d'être rejeté physiquement dans cette chambre dans laquelle j'essayais d'aller pour jouer avec, aller le chercher. Et donc là, je me faisais virer manu militari, donc, alors que moi, je cherchais la relation, quoi. Notamment, il y a eu une période qui était quand même assez difficile, avec beaucoup de tocs. Donc en fait, on était sur un processus de coucher qui prenait une éternité, qui commençait à 20h30, mais qui se terminait souvent à 23h30. Et bon, on était dans une petite maison, donc forcément, je l'entendais, c'était présent dans... C'était présent, c'était impossible de l'ignorer. Et donc, moi, ça me paraissait absurde, c'était difficilement compréhensible, ça m'agaçait. Et puis, je savais qu'il allait être fatigué et que du coup, ça allait être un cercle vicieux qui allait avoir tendance à renforcer ça. C'était des tocs d'ordre, des tocs de vérification, certains tocs d'hygiène. À la fois, ça me paraissait normal parce que c'était mon frère, qu'il a toujours été... plus ou moins toujours été comme ça, quelque chose de l'ordre du « c'est une évidence », quelque chose de l'ordre de l'agacement aussi, quelque chose effectivement de l'ordre de l'inquiétude, parce qu'on savait que ça allait, qu'il allait être fatigué, en se disant que c'était effectivement pas normal que ça lui prenne autant de temps. Enfin, c'était assez confus, ce qui est en lien aussi avec le fait qu'il n'avait pas de diagnostic non plus à l'époque. Donc je me souviens que dans les moments où j'étais amené par exemple à le garder ou à m'en occuper, j'étais sans doute assez sévère avec lui. Je pense que confusément, je percevais mes parents comme peut-être un peu laxistes sur certains aspects. Et moi, il me semblait que, donc maladroitement, mais que lui apprendre à faire la cuisine, à faire la vaisselle, ces tâches qui me paraissaient évidentes d'autonomie, c'était essentiel qu'il les apprenne. Et du coup, je faisais ça avec la pédagogie d'un enfant, donc autant vous dire aucune. Ce dont on parlait, c'était... de ses problèmes, donc dans une optique un peu assez pratico-pratique de résolution de problèmes, mais j'ai pas souvenir d'avoir partagé avec mes parents de moments où on se disait qu'est-ce que ça me fait, comment je me sens par rapport à ça, mais aussi parce que je pense que je me sentais pas autorisé à faire ça non plus, parce que On perçoit confusément que il y a une place qui est prise, qui est légitimement prise par ces difficultés-là. Et du coup, je pense que encore une fois, inconsciemment, on se dit qu'on va pas en rajouter, quoi. Donc, moi, j'ai jamais exprimé. Enfin, je me suis toujours très bien débrouillé à l'école. Pas de difficultés scolaires particulières. Pas d'état d'âme non plus particulière à partager. On essaye de. La barque est assez chargée comme ça. On évite de la charger davantage avec ses problèmes ou ses états d'âme, quoi. Les amis, bah, je vais peut-être un petit peu évoquer ça avec certains, mais ils pouvaient pas forcément comprendre parce que c'est tellement de l'expérience et du vécu que c'est difficile à faire comprendre dans les mots. Et c'est pas vers eux que je me tournais pour y chercher une compréhension. Donc du coup, non, j'avais effectivement pas grand monde, personne en fait, avec qui partager ça. Je pense que je me trouvais des espaces aussi de solitude pour avoir un peu un espace refuge et mon propre espace soupape, quoi. Pendant tout un moment, moi, j'ai aussi naturellement comparé la relation que j'avais à mon frère à celle que d'autres frères et sœurs neurotypiques entretenaient entre eux, quoi. Et je me disais, c'est pas la même quand même, hein. C'est pas la même, et je sais que j'aurais jamais la proximité. Alors tout le monde ne s'entend pas parfaitement avec ses frères et sœurs, hein, non plus, mais la grande proximité que certains partagent entre frères et sœurs, ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas, mais c'est une autre relation, quoi, que j'entretiens avec lui, qui n'est pas moins faite d'amour et de d'affection, mais voilà, qui est particulière. Mais je ne sais plus comment c'est venu, mais je me suis retrouvé à faire des recherches sur Internet, comme beaucoup, pour me dire « Ah bah oui !» Et là, ça agit souvent comme une espèce de révélation, de moment un peu magique où, en fait, l'expérience se réagence dans ce diagnostic en se disant « Bah oui, c'est évident, en fait. » Donc, à partir de là, j'ai attendu un petit peu et j'en ai parlé à mes parents en disant « Est-ce que vous pensez pas que il y aurait pas une question d'autisme derrière, vous devriez regarder ?» Et c'est là qu'ils m'ont dit « Ah bah oui, bah justement, il va peut-être se faire diagnostiquer à Rouen prochainement. » Et donc je me rappelle l'avoir très mal vécu, ça, puisque avoir été assez en colère par rapport à ça, puisqu'en fait ils avaient estimé que ça me regardait pas quelque part, ou réfléchi à ça ensemble, sans m'associer. Et du coup j'ai fait le cheminement tout seul dans mon coin, quoi. Et ça avait été assez difficile. Je pense que c'est parce que je m'étais dit, en fait, ils n'ont pas perçu à quel point moi ça m'avait directement concerné, quoi, ou pas voulu le voir. Moi, ça m'apporte une lecture quand même sur ces événements-là, qui est différente et qui est importante aussi pour comprendre sa construction et la manière dont on a été façonné par ça, comme les difficultés, les besoins de ce frère avec son handicap prennent toute la place. On grandit en faisant passer ça avant les siens, et aujourd'hui j'ai l'impression de réapprendre, voire d'apprendre tout simplement à identifier moi ce que je veux, quels sont mes besoins, ce qui me convient, ce qui me convient pas, pour m'orienter simplement dans la vie, parce que y a des gens pour lesquels ça paraît évident, moi j'aime ci, moi j'aime ça, ça c'est pas possible, ça c'est non, et moi pendant longtemps j'ai été un peu perdu face à ça. Il y a un côté un peu, un sens de la responsabilité très jeune, qui peut induire aussi un côté un peu sacrificiel, à s'oublier, soit dans le travail, soit dans les relations affectives. Donc c'est un équilibre à retrouver ensuite à l'âge adulte pour rééquilibrer, voilà, sa vie professionnelle, sa vie affective. Et c'est pas facile. De toute façon, en fait, les frères et sœurs perçoivent ce qui se passe. Donc il faut les associer. On se sent concerné de toute manière, on l'est et on est impacté de toute manière. Donc il faut aussi, je pense, laisser la possibilité aux frères et aux sœurs de participer à leur manière. Moi, en tout cas, j'avais besoin, et je pense que c'est important d'avoir la possibilité aussi de participer, de prendre soin. Donc il y a sans doute des espaces et des moments pour ça, mais il doit aussi y avoir des espaces et des moments où on fait un break, où l'autisme du frère ou de la sœur n'est plus là. Je pense par exemple, moi ce qui a été ressource, c'est par exemple les moments avec les grands-parents, quand on a la chance d'avoir des grands-parents qui peuvent garder les enfants, ou peut-être du coup on est seul avec les grands-parents, ou du coup on est juste un petit-fils qui a pleinement l'amour et l'attention complète des grands-parents. Pour les enfants, alors ça se crée de plus en plus, hein, ces espaces où on peut en discuter avec d'autres frères et sœurs. Et ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers ça parce que on peut se sentir un peu seul. Du coup, il peut y avoir un besoin. C'est pas forcément évident à trouver, mais je pense que c'est des structures, des espaces qui ont vocation à se multiplier, de se tourner vers d'autres frères et sœurs qui expérimentent ça pour en partager juste le vécu, le ressenti, pouvoir éventuellement décompresser, en rire ou juste... se comprendre mutuellement, ça apporte, je pense, beaucoup de bien, et c'est chouette que ces espaces-là existent. Et après, dire aux enfants que c'est normal de vouloir prendre soin et que c'est ok de vouloir effectivement contribuer, après que pour autant on n'est pas les parents non plus, et que faut savoir poser une limite et prendre soin de soi aussi, quoi, dans le sens où... à un moment donné on quitte le milieu familial et c'est ok, et même ça fait du bien aussi pour pouvoir se construire et se recentrer un petit peu sur soi, que c'est pas un abandon de son frère ou de sa sœur, que c'est pas de la lâcheté ou de l'égoïsme que de se dire je les laisse avec ça, je l'abandonne. Moi je ressentais vraiment le besoin de partir. J'ai entendu d'autres personnes parler de la culpabilité liée à ça. Moi, vraiment, ce qui dominait, c'était le besoin de couper un peu. Je suis parti dès 18 ans. J'ai privilégié des choix d'études qui me permettaient de quitter la Normandie. En fait, on en a besoin aussi pour se construire, parce que tout a tellement tourné pendant une longue période autour de ce frère ou de cette sœur, qu'à un moment donné, c'est important aussi de se tourner vers soi pour... après, pouvoir continuer à aider les parents, à l'aider lui. C'est le moment de se faire passer avant, quoi. On s'est adapté pendant toute une période, c'est normal, ça nous a marqué. C'est aussi, moi je pense que ça forge aussi de belles personnalités, hein. Des gens qui sont à l'écoute des autres, qui sont altruistes, qui ont envie de contribuer socialement au bien de la collectivité. Enfin, il faut se dire quand même que... je veux pas généraliser, mais j'ai quand même le sentiment que ça marque positivement les frères et les sœurs, quoi.
Merci à Mathieu pour sa précieuse contribution. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le CRAIF. Merci à eux pour leur confiance.